Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Ciel, studio de Chartres. L'Or des Curieux est une émission écrite et présentée par Robert Giroux. C'est Simon Martin qui est à la prise de son. L'autodidaxie est le fait de l'autodidacte. Autodidacte, aujourd'hui, tout le monde, ou presque, aimerait l'être ou prétend à l'être. Mais cela est-il aussi simple? Suffit-il de désirer pour être devenu? Rien n'est moins sûr. Alors pour ce présent numéro de L'Or des Curieux, nous allons faire un tour de ce côté-là, ce qu'est l'autodidacte de musique. À titre personnel, et si la chose est un titre, en voilà un que je puis réclamer pour moi-même. Et sur quelle base de faits précis me basais-je pour pouvoir l'affirmer? Je suis musicien depuis l'âge de 9 ans. J'avais reçu pour le Noël de mes 9 ans d'abord un banjo 6 cordes. Et puis, au Noël suivant, j'avais reçu une guitare. Instrument de la valeur de 35 francs, comme il se disait alors, acquis Côte des Cordeliers, ville de Romans-sur-Isère, à un saut de grenouille de ma bonne ville de Saint-Marcellin. Et j'ai reçu ces deux instruments non accordés, c'est-à-dire qu'ils avaient des cordes, mais les cordes étaient flasques, aucun accord. Et je ne connaissais aucun solfège, aucune théorie. Et pour être tout à fait franc avec vous, ça ne me manquait en aucune façon. Ce que j'aimais, c'était la musique folk américaine et le blues en solitaire, celui d'avant l'électricité, et cette musique dont je ne savais pas encore qu'elle se nommait musique bluegrass. Et c'était là ce que je désirais jouer. Pas d'école de musique ou de prof de guitare dans ma ville. J'ai donc entrepris ce qu'en marine on nomme la course en solitaire. Il me fallut à peu près 2 années complètes pour découvrir tout seul l'accord de la guitare, ce fameux mi, la, ré, sol, si, mi, dont je demandais confirmation à un garçon plus âgé que moi et qui marchait dans la rue portant un étui de guitare. Et durant ces 2 années de flottement, j'ai donc appris à jouer, ou du moins à sortir quelque chose de n'importe quelle disposition ou conformation des cordes. D'où une adaptabilité quasi immédiate aux accordages spéciaux, alternatifs, à ce que l'on nomme la scordature. Alors 2 années pour découvrir le mi, la, ré, sol, si, mi, c'est certes beaucoup plus long qu'il ne faudrait. Mais ce que j'ai découvert, chemin faisant, et l'apprentissage que j'en ai retiré, la qualité de cet apprentissage, sa spécificité, firent qu'il n'y eut pas lieu de le regretter. Les chemins de traverse ne sont pas et de loin les plus directs, mais ils sont en substance les plus riches, les plus révélateurs. Ce fut là la première chose que j'appris. Jusqu'à mes 17-18 ans, je travaillais la guitare seul, à raison de 5 ou 6 heures par jour. Mon travail scolaire était donc touché, comme on dirait maintenant, il était lourdement impacté. J'étais et suis resté abonné aux profondeurs du classement. Je n'étais scolaire en rien, pas phobique, plutôt hors cadre. Et j'avais définitivement pris goût à la recherche, à l'exploration musicale en solitaire. Et aujourd'hui encore, je ne sais rien de plus stimulant, de plus transcendant que cela. Vers 18 ans, mon père est venu me trouver et me dit qu'il comprenait ce que je faisais, mais qu'il voulait être sûr qu'il s'agissait là bien de musique. En outre, il détestait la facilité. Il me fit donc une proposition, relevant tout de même un peu, et je le dis avec tout l'amour du monde, relevant d'une certaine forme bien connue de chantage parental. Tu continues ta musique si tu me donnes la preuve que tu es vraiment un musicien. Faut-il qu'on les aime tout de même. Bref, il voulait que je sois confronté à un vrai prof de musique et à la théorie officielle sur laquelle, et de plein fer, je m'étais jusqu'alors refusé à jeter le moindre regard. Mais j'ai vu que je n'y couperais pas. Et j'ai aussitôt marchandé sur la durée de la chose. Au prix de transactions surhumaines, j'obtins que le calvaire ne dure pas plus de 2 ans. Et durant ces 2 années, j'ai eu l'extrême privilège de voir 2 fois pendant la semaine un jeune professeur, brillant, tellement qu'il devient après ça le directeur du conservatoire de Draguignan, je crois. Il s'appelait Monsieur Kerol. La première fois que je suis allé le voir, il était au piano et il jouait un boogie de Memphis Slim. À la fin, il s'est retourné vers moi et s'est exclamé « Ça, c'est de la musique, non ?» Et les deux années qui suivirent, j'appris avec lui la lecture à vue, le déchiffrage et des éléments de théorie en nombre. Alors comment, malgré cela, me considérais-je encore autodidacte ? Tout simplement parce qu'il s'est agi non pas d'un apprentissage et d'une découverte, mais d'une confirmation, point par point, des choses que je m'étais enseignées seul. J'avais simplement appris à nommer beaucoup de choses que je travaillais quotidiennement et qui m'étaient depuis très longtemps naturelles. De cet enseignement, j'ai tiré une chose entre toutes précieuses, à chanter, à sortir ma voix, qui était à l'époque une voix parfaitement blanche, sans timbre, sans expression. Mais nous pratiquions la lecture à vue en chantant, à haute voix, et notre professeur voulait entendre de vive voix que nous avions compris ce que nous déchiffrions. Ces années au sortir furent tout le contraire d'un calvaire. J'y ai découvert et apprécié un professeur attentif, exigeant, dévoué, compréhensif, insistant, mais jamais dictatorial. Il était très stimulant et encourageait toutes nos qualités personnelles. J'ai donc été un élève attentif et heureux de me trouver là où j'étais. Au bout de 2 ans, pile, presque à l'heure près, j'ai vu débouler mon père dans la salle de cours et mon professeur et lui ont bavardé un court instant. Puis mon père s'est tourné vers moi en disant « C'est bon pour moi, on rentre à la maison ». Il avait acquis, peut-être du temps qu'il passa dans le maquis du Vercors, le sens de la formule courte et un sens du rapport humain abrégé qui a toujours fait mon admiration. Lorsque je suis parti sur Paris pour tenter de faire métier de la musique, il m'a dit seulement ceci « Si tu te lies à quelqu'un, sois sûr de pouvoir défaire ce lien dans la minute. Et où que tu sois, tiens-toi le plus près possible de la porte de sortie. » Voilà tout pour les recommandations. Et lorsque la première fois il a entendu une de mes musiques à la télévision, il s'est tourné vers ma mère et lui a dit « Bof, dans le fond, si ça se trouve, il n'est pas pire que les autres. » Et ce jour-là, croyez-moi, j'ai reçu bien mieux qu'un prix Nobel. Durant ces 2 années imposées dans le cadre plus classique de la musique, je n'ai pas réellement senti de cassure avec mon parcours solitaire, qui allait de toute façon toujours son cours, quoi qu'il arrive, et qui était mon essentiel. Alors le fait que certains autodidactes aient pu, à un moment donné, être exposés à un enseignement ne fait pas d'eux des traîtres à la cause. Toru Takemitsu, par exemple, s'est exposé à recevoir, sinon un enseignement, du moins une confirmation auprès d'un professeur quant à la validité de son travail qu'il avait déjà accompli. Il voulait simplement savoir qu'il ne prenait pas une voie sans issue. Takemitsu a donc bel et bien été un autodidacte parfait, nourrissant ses vues en musique essentiellement de l'observation du monde et de la nature. La remarque vaut aussi pour John Cage. Bien qu'il reçût un temps l'enseignement d'Arnold Schoenberg, excusez du peu, il faut tout de même savoir que Schoenberg estimait très peu ses élèves. Selon lui, il n'y en eut pas un, pas une de bon. Il a dit un jour « Mes malheureux élèves, je n'en ai pas un seul d'intéressant. » Il y a bien dénommé John Cage là, mais lui c'est différent. Il n'est pas, il ne sera jamais un compositeur. Tout au plus, un petit inventeur avec un trait de génie ici ou là. Rien de mieux. Et si Cage a reçu un enseignement un jour, il en a fait du verre pilé, du petit bois, pour n'en faire qu'à sa tête au sortir. Nous écoutons à présent une musique de Toru Takemitsu qui s'appelle Rain Tree Sketch 1 et 2. Rain Tree Sketch se traduit par croquis de l'arbre de pluie qui décrit tout simplement un arbre de pluie, sous l'averse, et l'on suit presque dans cette musique le trajet de la goutte d'eau dans le feuillage. Toru Takemitsu. La matière musicale de l'autodidacte, son origine et sa validité ou non, voilà ce qui fait question auprès des autres musiciens et du public. Tout d'abord, il faut dire que de quelque façon que l'on vienne à la musique, nous le faisons par un bien commun de ressenti, d'expérience, de connaissances et de sensations puissantes et immédiates. Nous aimons la musique. Et nous ressentons que là est notre passage vers la vie, vers l'expression, vers une réalité s'énonçant par la sensation, une réalité au-delà du langage, au-delà des idées, des principes, au-delà du seul intellect et de ses brillantes mais si insuffisantes capacités. C'est comme la découverte d'un continent, d'un univers, et autodidactes ou non, c'est donc une sorte d'illumination de nature quasi religieuse qui est à l'origine de la vie en musique. La musique est au monde depuis l'origine et nous la recevons de plein fouet, sans y être préparés. Des siècles et des siècles de vie sur terre, d'une vie faite musique, nous saute au visage, nous bouleverse intégralement, sans que nous y soyons prêts, sans prévenir. La musique, primairement, est donc un choc émotionnel d'abord, choc frontal, massif. Nous sommes bouleversés, au plus fort, au plus profond qui soit, sans savoir rien de la nature, de l'origine exacte et de la portée à venir de ce bouleversement. Aussi, grandir en musique, lorsqu'un œil extérieur ou l'appui de toute l'expérience d'un professeur vous font défaut, cela est d'une difficulté extrême. L'enfant, le nourrisson, voit entend, ressent qu'autour de lui on marche, on parle, et ressent aussitôt que là est son cadre, son décor, les conditions de sa vie, et il s'y dirige, il gambade, il babille, il veut faire comme, il reproduit. Seulement, la musique ne procède pas de ce type de ressenti et de démarche. Le petit enfant reproduit le monde autour de lui, mais la musique est une science. Elle ne se babille pas. Et pour reproduire en musique, reproduire comme le ferait un enfant, un musicien se doit d'être enseigné, et très bien, sans quoi il ne sera que confusion et indétermination. Alors comment procède l'autodidacte au début? C'est assez mystérieux, il faut le dire. Et ayant traversé cette phase moi-même, je reste en suspens, le bec dans l'eau, dès lors qu'il me faut l'exprimer, l'expliciter. J'ai eu à l'adolescence quelques chocs musicaux qui ont créé en moi le désir de jouer, d'être instrumentiste. Blues rural, une voix, une guitare, folk américain et musique bluegrass. Alors par quoi commencer? Et comment? Comment interpréter ce que l'on entend et qui est au départ, physiquement, une succession de notes, d'accords, de phrasés, de nuances? Comment aborder cela? Comment tracer son chemin? Comme tout un chacun, à un moment, j'ai passé et repassé mes disques à une vitesse inférieure, pensant y saisir et y discerner, sinon y comprendre, le début de quelque chose qui puisse m'aider. Peine perdue. Seul le savoir, et un savoir pleinement digéré, permet de restituer. Et je n'avais pas cela. J'eus donc recours à ce qui fit la bonne fortune de ma vie, ces bons vieux chemins de traverse. Jamais je ne jouerai comme Big Bill Brunsey ou bien Earl Scruggs, ce qui était mon ambition première. Et j'étais bel et bien contraint d'aborder la musique autrement. J'axais donc tout sur ma très forte attirance vers les domaines de l'harmonie et du chant, puisque musicalement, je possédais une espèce de double personnalité, puisque blues et bluegrass avaient été précédés, chronologiquement parlant, par les cantates de Jean-Sébastien Bach et mes premières écoutes de Debussy et Ravel, essentiellement par Samson François. Trouver sa propre harmonie, son chant propre, l'exhumer patiemment, longuement, avec les moyens du bord. Ceci n'excluant pas d'être rigoureux et assidu. Ainsi me trouvait-on la plupart du temps à marmonner, à chantonner des choses, esquisser des accords, des phrasés, des cellules rythmiques. Bref, tout le monde autour de moi se demandait bien ce que je pouvais fiche de mes journées. Autodidacte, vous êtes donc très tôt pris à partie, mis en position d'infériorité. Mais le tour quelque peu monacal que prenait ma vie me convenait. Seul me passionnaient mes recherches et jusqu'à mes erreurs de parcours qui se révélaient de plus en plus fructueuses. Vertu de l'égarement et de l'indéfinition, car vecteur de sursaut, d'un plus de réflexion encore. M'est donc venu tout naturellement le besoin de poser par écrit ce que je concevais, d'en faire une base fixe pour mieux pouvoir la faire évoluer. Voilà comment, un beau matin, le compositeur succède au musicien. Parcours totalement accidenté, parcours rude, puisque l'on n'a aucun autre recours pour éclore que de presser brutalement sur soi-même. Et c'est là précisément que je ne recommande à personne la voie autodidacte, car elle est trop violente, elle est sans pardon et vous coupe totalement d'une vie et d'expérience que tout adolescent se doit de connaître. Toutes mes relations ont eu à souffrir de cette exclusive que j'accordais à la musique. Et beaucoup de ce qui fait une vie d'adolescent s'est trouvé escamoté, sinon totalement absent de ma jeunesse. Je m'en suis privé, détourné moi-même. Et cela a creusé un manque béant en moi. Aussi, je recommande absolument et sans nuance aucune à toutes et tous d'apprendre la musique avec un professeur. Si vous devez être une ou un indomptable, un esprit rétif, rebelle à tout, vous le saurez de toute manière. Rien ne vous arrêtera. Et à ce moment-là, tout l'enseignement que vous aurez reçu deviendra une force supplémentaire. L'autodidacte, lui, est un coureur de fond, dont l'essentiel de la vie se fait en réflexion, en recherche, en doute et en illumination. C'est une vie de très forts contrastes, de chutes et de sursauts. Les temps d'équilibre y sont comptés et très relatifs, pour ne pas dire précaires. Les temps de déséquilibre y sont très forts, très long, très pénalisant. En outre, il vous faudra une certaine dose d'impassibilité face au « qu'en dira-t-on », aux mesquineries et à toutes les choses que vous entendrez dire sur vous et qui ne seront pas nécessairement belles et bienveillantes et souvent pas intelligentes du tout. Je sais qu'il y a certaines vues transversales sur la musique que j'ai, certains éblouissements qui me viennent du type d'apprentissage que je me suis choisi, de cette voie particulière qui ouvre effectivement sur autre chose. Mais fallait-il pour cela sacrifier autant de sa vie, le temps de sa jeunesse et de tout ce qu'elle doit contenir? Je n'en conçois pour moi-même pas le moindre regret. Mais je ne peux pas conseiller ce type de choix, en faire promotion, car il contient possiblement des risques, pour ne pas dire des dangers, quant au développement et à l'épanouissement de soi. Il faut savoir vivre avec certains manques dans l'absence des autres au jour le jour et l'absence de tout autre repère que son intuition, radar assez capricieux à ce qu'il m'en semble. Seul ou non, une vie de musicien se fait quoi qu'il advienne, et tôt ou tard, on se retrouve en fraternité avec les autres musiciennes et musiciens. Pourquoi pensez-vous qu'existe l'Ordre des Curieux, sinon pour vous dire et vous redire et vous chanter sur tous les tons mon amour des musiques, de toutes les musiques, car j'ai pu accéder à toutes, et toutes se sont confiées à moi, semblablement, malgré tout le bizarroïde de mon parcours. Je pourrais presque dire que rien de ce qui est musique ne m'est étranger. Autodidacte ou grands initiés, la destination finale est la même. Elle est une, elle ne porte qu'un seul nom, musique. Il n'y a aucune vertu particulière à l'autodidaxie. Les années formatives, pour cruciales qu'elles soient, ne sont pas la finalité, qui est la musique et seulement elle. Et comment nous la servirons ? Nous écoutons d'autres autodidactes.
Thank you.
D'un autodidacte, on aura tôt fait de penser qu'il ferait mieux d'exercer ses talents dans les musiques populaires, faciles, comme on suppose que sont les musiques populaires. Double méprise. D'abord parce que les musiques dites populaires sont parfois, très souvent même, d'une rare complexité, que l'on songe seulement aux musiques indiennes ou japonaises. Par ailleurs, dans beaucoup d'expressions populaires, la musique se rapproche de l'art religieux et de l'esprit savant. La facilité n'entre pour rien dans la destinée et les choix d'une ou d'un musicien populaire. Par ailleurs, certains musiciens autodidactes ont fait le choix de la musique savante, comme Takemitsu, que nous avons écouté. À ce titre, Takemitsu est un exemple particulièrement fort et parlant. Cette restitution en musique de la nature, comme vous l'avez entendu, on suit presque le trajet de la goutte d'eau, prouve par le fait l'importance et l'apport déterminant de l'observation, de l'imprégnation du monde naturel, et à quel point le rapport intime avec la nature et le monde porte en lui les germes d'un enseignement unique. Car la nature, sans être musicienne, est un univers en constante transformation, en constant travail. Chaque détail joue un rôle auquel rien ne peut se substituer. On sait que Takemitsu s'est instruit de l'art d'orchestrer par l'observation fine du monde végétal. Ce ne fut certes pas son seul recours, mais un qui lui a transmis une efficience redoutable dans le domaine expressif. Ses pics expressifs, du presque murmure à la détonation, sont particulièrement probants, car établis sur le motif, d'après nature, ils ne se contentent pas de faire jouer fort et de choquer, mais ils restituent le chaos de l'intérieur et le chaos tel que la nature l'exprime. Je le crois solidement autodidacte parce que je reconnais en lui cette passion d'observer, de disséquer, de comprendre et de s'instruire par le vécu, qui est le propre de l'autodidacte. Je ne m'attarderai pas davantage sur les autres compositeurs classiques qu'on a dit autodidactes. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. On a dit Schoenberg autodidacte, Wagner ou encore Mozart. Passons rapidement, les vues de l'esprit prennent parfois des dimensions surprenantes. Eric Satie aussi, ai-je entendu, mais le cher Satie était davantage un cancre qu'un déviant. Et puis il a très vite recherché l'aval de l'Académie par Vincent d'Indy. Et puis Satie, échappant à toute catégorie, échappe à celle-là aussi. Satie était un génie, et à cela, on ne demande aucun diplôme. Intéressons-nous à une catégorie de musiciens faite pour l'essentiel de purs autodidactes, quoiqu'ici encore la généralisation conduit à l'erreur. Je veux parler de ce que nous nommons les musiciens traditionnels. Nous allons écouter un air de violon irlandais tout à l'heure et vous verrez comme peuvent être proches les langages savants et populaires, l'appris et l'inné. Je vous ferai à ce propos entendre un air de violon qui décrit un processus très voisin de ce que décrivait Takemitsu. Le compositeur avait été surpris par l'averse, il s'était donc abrité sous le rebord d'un toit, sous un chéneau, et la pluie perlait par un trou sur le chéneau. Il voyait tout l'orage se déverser et il ressentait un mouvement musical à tout cela, et c'est cela qu'il a cherché à transcrire. Nous écoutons sans plus tarder ce thème qui s'intitule « Bill Charlton's Fancy ». Il nous est interprété par Catherine Tickle. Thank you. Lorsque, enfant, nous découvrons la musique, notre esprit agit très vite. Nous sommes émerveillés, nous sommes surpris, nous cherchons. Nous en voulons plus, nous voulons pénétrer ce mystère, en être part, au plus vite, au plus fort. Alors nous nous accrochons à des notes. Il y a cette chose mystérieuse, l'harmonie. Il y a toute cette place que tient le temps. Tiens, que fiche-t-il là, celui-là? Comment a-t-il pu rentrer? Nous voulons savoir, nous cherchons. Ici, je crois la différence très mince de l'initié à l'autodidacte. Différence de terreau et de moyens pour croître. Mais l'étoile courue est bien la même. L'autodidacte livré à lui seul perd du temps, parfois énormément. Mais ses erreurs ne sont jamais vaines. Il y fait des découvertes qui resteront inaccessibles à d'autres. Il trouve de l'or. Si j'avais une autre vie à vivre, je crois que je choisirais le conservatoire. Non pas que j'ai des regrets, certainement pas. Mais à quoi bon refaire les mêmes choses? Changer pour voir, ce serait peut-être amusant. Je n'ai jamais tiré aucune fierté d'être autodidacte. Il n'y a pas là un mérite particulier. On essaie simplement d'être musicien. Tout juste ai-je l'impression, quelquefois, d'être venu à la musique en coupant à travers champs, par les sentiers. La quasi-totalité des gens que j'admire en musique ont procédé tout à l'inverse de moi, ne me ressemblent en rien. Ceci posé, il m'a toujours paru que manquait aux autodidactes un statut qui leur soit particulier et qui leur permettrait, entre autres choses, un accès à certaines formes d'art desquelles ils sont encore tenus et éloignés. Un statut, car être autodidacte, c'est un particularisme important, une autre face de la musique, un autre angle, qui induit en nous une conduite, des actes, des choix, sans doute très spécifiques. Et c'est ce caractère spécifique des vues et des actes, cette différence de facto, qui me paraît devoir être accompagnée d'une reconnaissance tout aussi spécifique sous la forme d'un statut. L'autodidacte est un être tout aussi articulé, consistant et raisonné que n'importe qui d'autre. Rien d'approximatif, de hasardeux, d'indécis ou d'imprécis, rien qui se joue au petit bonheur la chance. L'autodidacte est au cœur de la science de musique, qui est la même pour toutes et tous. Il aura simplement une sensibilité particulière qui lui fera faire des choix très différenciés. Cette différence qui a fait, par exemple, le piano de Thelonious Monk, qui est autodidacte. Il a suivi un enseignement par la suite. Son entourage a jugé bon qu'il reçoive cet enseignement, mais ça ne l'a pas détourné de sa voix première et de son style qui était déjà créé. À propos de Monk, est-ce qu'on peut se figurer aujourd'hui que dans les années 50 du siècle dernier, les oukases de la musique avaient décrété que Monk ne savait pas jouer, qu'il ne savait pas compter le temps, que ses harmonies étaient fausses et d'autres âneries de cette espèce encore. Monk était et demeure une approche d'une totale finesse, d'une science de musique plus que maîtrisienne. Monk était un sommet, un pur génie, un maître contemporain, au même titre que Matisse ou Paul Klee dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, dans les écoles de jazz, on apprend à jouer comme lui, on enseigne ses temps, son phrasé, ses articulations, ses harmonies, comme on le fait pour Bill Evans, par exemple. Car être autodidacte, c'est aussi tirer sa substance de qui l'on est, y compris dans ses aspects les plus faibles, là où nous devenons plus fragiles que le verre. Je vous parlais de Bill Evans. Bill Evans et Thelonious Monk sont en fait les deux parfaits repères quant à juger de l'initié et de l'autodidacte. Bill Evans, au concert, avant d'être jazzman, a joué Beethoven, Haydn ou encore Ravel au concert. Et il a su insuffler toute cette excellence au jazz, sans le gâter. Thelonious Monk a mis au jour tout un univers pianistique d'une intériorité qui reste sensible et impressionnante aujourd'hui encore. Les deux musiciens sont deux pierres angulaires primordiales au jazz d'aujourd'hui. Ici, c'est clair, le trésor culturel qui est attiré de l'acceptation, de la reconnaissance de l'autodidacte, mais aussi de la protection de son œuvre. Nous écoutons Thelonious Monk. Ici s'achève cette courte promenade en terre autodidacte, qui n'avait pas la prétention de couvrir toutes les réalités ou encore d'être parfaite. Ça n'était que quelques courtes remarques nées de ma propre expérience. Je vous donne rendez-vous en 15, même punition, même motif. D'ici là, prenez le meilleur soin de vous-même et des vôtres. Merci de m'écouter, merci d'être fidèle à Radio Grand Ciel. À tout bientôt. Au revoir.